Alors, deuxième atelier, c'est sur un projet. Je donne la parole au docteur Dominique Demonte de l'ULB et qui s'occupe, qui est le directeur d'ailleurs, du Bioparc Charleroi Brussels South. Vous voyez immédiatement, Brussels South. Hein, voilà.
Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je ne peux faire que répéter ce qu'a dit Nathalie. C'est que je me réjouis évidemment que vous soyez peu nombreux. Vous voyez, je m'attendais à ce qu'on soit en petit comité et nous sommes beaucoup. Je ne peux que m'en réjouir. Alors, lorsqu'on pense à l'université, on pense évidemment à la recherche et à la formation. L'objectif de ma présentation aujourd'hui est de vous montrer que l'université est aussi un moteur de développement économique et plus particulièrement que l'ULB est un moteur de développement économique pour la région de Charleroi. Alors, la présence d'une université, c'est clairement un atout pour une région. Et un des plus beaux exemples qui est relativement facile à étudier est celui de l'UCL, puisqu'ils ont décidé de s'installer une région où il n'y avait pas grand-chose à l'époque, hein, Louvain-la-Neuve, et ils en ont fait aujourd'hui une ville de 11 000 habitants, au sein duquel on voit le poids de l'université. Hein. Donc en plus des 11 000 habitants, ils apportent plus ou moins 30 000 étudiants. Ils apportent 7 à 8 000 personnes qui travaillent au sein de l'UCL. Hein, et donc on voit tout de suite le poids économique que la présence même d'une université peut jouer au sein d'une ville. Et non content de ce poids économique, ils ont aussi mis en place en 1971 un parc scientifique qui a permis la création de 200 entreprises et de 5 600 personnes. Alors, autre exemple un peu différent est celui de l'université de Liège. De nouveau, un poids relativement important, plus ou moins 20 000 étudiants, 4 000 personnes qui travaillent au sein de l'université, la création le CHU qui draine 4 000 emplois, et idem, même logique, la création d'un parc scientifique qui a permis 3 000 emplois supplémentaires. Alors évidemment, tout ça c'est bien beau, mais ça ne nous intéresse pas vraiment, puisque nous ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe à Charleroi. Alors, pour parler de ce qui se passe à Charleroi, c'est important de se rendre compte que lorsqu'on parle de l'impact des universités sur le développement d'une région, on peut parler d'impact direct ou indirect, mais il y a une notion qui est beaucoup plus intéressante et sur laquelle je vais revenir, qui est l'impact amont versus aval. Alors, je ne vais pas du tout parler dans ma présentation des autres impacts que peut avoir l'université sur une région, à savoir la formation de sa population, pour autant que les gens restent dans la région en question. L'emploi, évidemment, on va en parler, la culture, la santé et l'image de la ville. C'est évidemment des impacts très importants, mais que je n'aborderai pas du tout aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle d'impact amont ou d'impact aval, on va mettre dans ce qu'on appelle l'impact amont tous les investissements et les dépenses qui sont liées à la présence de l'université. Et là-dedans, on peut aussi parler de direct et d'indirect. Donc, ces impacts, ça va être, bien entendu, les gens qui travaillent au sein de l'université, toutes les organisations qui vont être liées à l'université, les musées, les restaurants, les centres sportifs, les emplois dans les hôpitaux, les emplois induits par les dépenses de l'université, fournisseurs, sous-traitants, les emplois induits par les étudiants, les logements, le transport. Alors, c'est assez difficile à chiffrer, il y a un certain nombre d'études là-dessus, moi j'y connais pas grand-chose, je suis pas du tout spécialisé dans ce type d'études, je pense qu'il est relativement évident qu'on peut dire que c'est un impact qui est indéniablement très important. Et de nouveau, quand on regarde l'exemple de Louvain-la-Neuve, on voit que ça peut représenter des milliers d'emplois. Alors, deuxième impact, c'est ce qu'on appelle l'aval, qui est plus l'output des activités de recherche ou des activités liées à l'université, via la production, la dissémination de connaissances, via la création d'activités économiques. Et vous comprenez tout de suite pourquoi, quand je parlais de l'UCL et de l'ULG, je dissociais le rôle de l'université et le rôle de ses parcs scientifiques, et bien entendu les interactions qu'elle peut mener avec la ville ou d'autres types d'acteurs régionaux. Alors, quelle est la situation aujourd'hui à Charleroi? Les impacts amont, donc liés à la présence d'une université, comme le disait Nathalie, on n'a pas aujourd'hui d'université à Charleroi, sont relativement limités, puisqu'on dit on n'a pas d'université à Charleroi, c'est pas tout à fait. On n'a pas une université, mais on a la présence de différentes universités, bien entendu l'ULB, l'Université de Mons, un peu du CEL, un peu de Namur. La situation devrait s'améliorer, puisque vous savez qu'il y a eu, qu'on a inauguré, enfin il y a eu la première rentrée académique au niveau du bâtiment Zenobgram, hein, qui regroupe les partenaires que vous voyez ici. Donc clairement, il va y avoir de plus en plus de chercheurs de l'ULB, de l'UMONS, qui en association avec les hautes écoles et avec l'université ouverte, vont créer une certaine masse critique au centre-ville. Je pense que c'est très important pour la dynamisation du centre-ville, mais clairement, on n'en arrivera pas aux chiffres que je vous ai montrés précédemment. On n'aura probablement jamais 1000 personnes qui travailleront pour l'ULB ou pour l'Université de Mons ou l'Université Namur au centre-ville. Donc c'est une initiative très importante, mais il est relativement clair que ce qu'on appelle l'impact amont des universités restera toujours relativement restreint sur le développement de l'économie de Charleroi. Alors, bien entendu, vous avez compris qu'en termes de développement aval, et là, évidemment, je ne voulais pas décevoir ceux qui voulaient m'écouter aujourd'hui, je vais parler du bioparc, puisque là, on est clairement dans un exemple de quelle peut être la contribution d'une université, l'ULB, au développement économique d'une région dans laquelle, finalement, elle a peu d'impact sur le développement amont. Alors, l'histoire du bioparc, je vais être assez rapide, mais c'est un moment, l'ULB, qui décide de regrouper des équipes de recherche dans un nouvel institut. Gros traumatisme, des chercheurs font des dépressions parce qu'on leur explique qu'ils vont passer de Rhodes-Saint-Genèse à Charleroi où à l'époque il n'y avait rien. Certains quittent l'université. Enfin bref, un gros traumatisme et une vraie décision politique de l'université. Décision qui est soutenue par des fonds venant de la Wallonie et de l'Europe, hein, ce qu'on appelle ces fameux fonds européens. Avec au niveau de l'université quand même deux objectifs. Un premier qui était de renforcer notre potentiel de recherche dans le domaine de la biologie moléculaire. Et de jouer un rôle dans le développement économique de Charleroi. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, tous les gens qui travaillent à l'IBMM se portent mentalement et physiquement très bien, sont ravis d'être là, et on a d'ailleurs des équipes de Bruxelles qui nous rejoignent. Donc tout va bien pour le meilleur des mondes, pour ces braves gens qui sont entre-temps passés de 100 à 200. Il faut quand même être bien conscient que quand l'université a pris cette décision-là, c'était quand même un challenge, puisque si on prend les données de base, pas d'activité biotechnologique à Charleroi. Donc on veut créer un centre d'excellence en biotechnologie, mais il n'y a pas d'activité biotechnologique à Charleroi. Alors je ne peux évidemment pas être taxé de ne pas être un pro-Charleroi, mais il faut quand même bien se rendre compte qu'en 1999, Charleroi n'est pas vraiment la Silicon Valley. Donc personne ne se réveille le matin en se disant « Super, je vais aller créer ma boîte de biotech à Charleroi ». Et c'est assez évident, mais même si on a un soutien de la région wallonne et de l'Europe qui est relativement important, nous sommes très très loin des montants qui peuvent être investis en Chine ou aux États-Unis lorsqu'ils décident de créer des équivalents du bioparc. Alors malgré ces données de base qui n'étaient pas extrêmement favorables, aujourd'hui on peut dire que le bioparc, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, ça, c'est aussi des études de l'Europe, de l'OCDE, le bioparc peut être considéré comme une réussite, puisqu'on a aujourd'hui plus ou moins 1000 personnes qui travaillent sur le bioparc, 23 nationalités. On est passé de 1 à 3 centres de recherche. Donc je vous dis, un des premiers objectifs de l'ULB, c'était de développer notre potentiel de recherche. Premier centre, l'IBMM. On a créé un institut d'immunologie médicale en collaboration avec GlaxoSmithKline Vaccines. Et on a créé avec nos collègues de l'Université de Mons un centre d'imagerie multimodale relativement performant. Donc, au niveau de l'université, et on publie dans les meilleures revues. Vous avez ici la couverture de la revue Science, qui est un peu le graal lorsque vous commencez vos études scientifiques. Vous vous dites, un jour, je publierai dans Science. Donc, on a rempli notre premier objectif. Pour remplir le deuxième objectif, qui est aussi pas mal abouti, puisque vous pouvez voir qu'on a aujourd'hui 32 entreprises qui travaillent sur le bioparc, et je vous montrerai un peu plus tard que ces 32 entreprises, ce n'est pas 32 entreprises d'une ou deux personnes, qui a du vrai emploi là-derrière. On a structuré tout ce qu'on appelle le processus de transfert technologique. Alors, quelle est la stratégie ? Vous verrez pourquoi je passe un peu de temps pour vous expliquer quelle est la stratégie qu'on a mise en place. Quelle est la stratégie qu'on a mise en place pour arriver à ces résultats ? Premièrement, c'est développer ces outils nécessaires pour le transfert technologique. Puisque ce qui est assez évident, c'est que si vous prenez des chercheurs académiques, qui font de la très bonne recherche académique, naturellement, ça ne va pas aboutir à des développements industriels. Donc, vous devez structurer ce qu'on appelle un processus de transfert technologique. Donc, vos chercheurs font de la bonne science. Il y a des gens dans l'université, dans ce qu'on appelle une office de transfert technologique, qui vont identifier la science qui a un potentiel de développement industriel. Et puis, on a créé deux structures, et je vais y revenir, un incubateur, un centre de formation, trois structures, et un fonds d'investissement propre à l'université, fonds d'investissement qui a été créé en collaboration avec Sambre Invest, et j'y reviendrai plus tard, et incubateur qui a été créé en collaboration avec YTech et Sambre Invest, et je reviendrai plus tard sur l'importance des partenariats avec différentes structures lorsqu'on veut développer un système comme le bioparc. Alors, développement des structures. Première structure importante, c'est un incubateur. Et donc, la mission de l'incubateur, et ça, ça a vraiment évolué au cours du temps, c'est de supporter la création d'entreprises, mais aussi d'aider les entreprises à se développer et d'attirer les entreprises. Et là, vous verrez qu'on a vraiment, au niveau du bioparc, connu différentes phases de développement. Alors, ceux-ci sont les partenaires avec lesquels on a créé la structure d'incubation. Parce qu'au niveau de l'ULB, on n'a pas ce complexe de supériorité partant du principe que comme nous sommes une université, nous sommes compétents dans tout et nous pouvons tout faire tout seuls. Donc on a été chercher des partenaires clés pour créer cet incubateur qui sont, comme je vous le disais, Sambre Invest, YTech et Héraclès, et puis d'autres structures qu'on trouve au niveau régional. Et on a évidemment associé nos collègues de l'université de Mons. Alors ce qui est important au niveau d'un incubateur biotech, c'est évidemment d'avoir des bâtiments adaptés. On ne fait pas de la biotech dans un environnement comme celui-ci, même s'il est tout à fait agréable. Donc il faut des bâtiments spécifiques. Et là, le fait d'avoir une intercommunale comme YTech, qui est maintenant à son 5e ou 6e bâtiment biotech, est très très important. C'est aussi la capacité qu'on peut avoir pour une nouvelle entreprise à la connecter avec les différents acteurs publics. C'est aussi la capacité qu'on a à les connecter avec d'autres entreprises privées. Je parlais de GSK. Pour une nouvelle société qui vient s'installer dans le domaine de la vaccinologie, pouvoir lui organiser du jour au lendemain une réunion avec le directeur de la R&D de GSK, c'est évidemment une très haute valeur ajoutée que vous pouvez apporter dans un environnement comme le nôtre. C'est pouvoir structurer le réseau des acteurs financiers. On est dans des sociétés, je donnerai quelques chiffres, qui ont besoin de beaucoup d'argent pour se développer. Et c'est bien entendu avoir la capacité de les mettre en relation avec des acteurs de recherche. Et donc finalement, ce qu'on doit faire au niveau d'un incubateur, c'est mettre en place toutes ces fonctions. Et vous voyez que ça doit vraiment se faire dans une logique partenariale. Alors, si on regarde les résultats, là, il y a vraiment trois phases dans le développement des entreprises du bioparc. Les premières sociétés qu'on a créées, et ça, honnêtement, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est ce qu'on appelle des spin-off de l'ULB. Donc, on génère des recherches dans les laboratoires de l'ULB, ça a un potentiel industriel, on crée des sociétés. Alors, vous voyez qu'on a créé 13 spin-off de l'ULB depuis 1999, donc grosso modo plus ou moins une par an, bon an, mal an. Mais vous voyez qu'on a 32 entreprises. Donc, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, les spin-off de l'ULB représentent plus ou moins 35% de l'ensemble de nos sociétés. Deuxième phase, c'est des sociétés qui ont décidé de se créer sur le bioparc ou de rejoindre le bioparc. Et donc on a entre autres une spin-off de l'UCL qui a décidé de se créer sur le bioparc. On a des sociétés qui étaient du côté de Namur qui ont décidé de venir se mettre. Et on a évidemment par exemple une spin-off de l'IPG qui est localisée sur le bioparc. Et donc là on voit clairement que le fait d'avoir créé cet environnement vous permet d'accueillir d'autres entreprises qui naturellement ne se seraient pas installées sur Charleroi si nous n'étions pas présents et si nous n'avions pas organisé cette structure. Et puis depuis 2014, et ce n'est que le début, on a pu attirer des sociétés étrangères, une société israélienne et une société des Pays-Bas. Et donc je reviens à mes données initiales. En 99, personne ne se réveillait le matin en disant « je pourrais aller créer ma société à Charleroi ». Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent en disant « je pourrais aller créer ma société à Charleroi ». Alors, deuxième structure qui est importante dans ce processus de transfert technologique, on va toujours vous parler des incubateurs, on va toujours vous parler des offices de transfert technologique, on oublie souvent un élément très important, c'est la formation, et plus particulièrement la formation continue, qui est pilotée par mon ami Arnaud Termonia, qui est juste là. Avec vraiment un objectif, lorsqu'on crée ce centre de formation continue, c'est de venir en support au développement de nos activités économiques, mais également au développement de nos activités académiques. Et donc, pour ce faire, on a décliné toute une série de programmes de formation qui s'adressent aux demandeurs d'emploi, aux techniciens, aux lab managers, aux CEO des sociétés. Vous voyez qu'aujourd'hui, on forme plus ou moins 850 personnes par an. Donc, c'est quand même relativement important. Vous voyez que depuis 2010, on a formé 3500 personnes, développé 300 modules, travailler avec plus de la moitié, donc il y a plus ou moins 130 sociétés biotech en région wallonne, donc 130 sociétés, 33 sur Charleroi, donc on commence à devenir un des gros hubs biotech en termes de nombre de sociétés, et vous voyez que plus de la moitié ont été formées au niveau du bioparc. On travaille aussi avec pour les demandeurs d'emploi, avec un taux de réinsertion qui est entre 90% et 100%, et jusqu'à présent, on a remis plus ou moins 120 personnes à l'emploi. Alors, de nouveau, vous voyez que tout ça, il y a toute une série de logos, tout ça se fait en partenariat. Lorsqu'on travaille avec les demandeurs d'emploi, on fait ça en étroite collaboration avec le Forum, et plus particulièrement le Forum Charleroi. Lorsqu'on fait des programmes pour les managers, on travaille avec les hautes écoles et la Solvay Business School. Et lorsqu'on fait des programmes plus technologiques ou de compétences transversales, ben on travaille avec le CEFOCHIM, le pôle de compétitivité, l'université de Mons, et on a également des programmes avec l'université ouverte. Donc de nouveau, c'est vraiment une inscription dans toute une série de partenariats, et je vous montrerai un peu plus loin comment ce centre-là contribue à la stratégie globale du campus. Alors, deuxième point qui est important, donc un, vous créez les outils. Vous avez une masse de recherche, vous la développez, vous faites de la bonne science, vous créez des outils pour le transfert technologique. Troisièmement, il vous faut une stratégie. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on est les champions du monde dans le domaine biomédical, dans tous les domaines des sciences du vivant. Et donc on a fait le choix de thématiques qui sont l'immunologie, l'imagerie et la thérapie cellulaire, qui sont des thématiques dans lesquelles on a une masse critique, un potentiel industriel, et dans lesquelles on a déjà un certain leadership au niveau international. Parce que c'est très bien de réfléchir en termes de développement de stratégie Charleroi, Wallonie, mais il faut évidemment penser ça sur le plan international, parce que toutes nos sociétés, elles font une toute petite partie de leur chiffre d'affaires en Belgique et la majorité à l'international. Donc n'avoir qu'une stratégie de développement régional qui n'intégrerait pas ces notions de compétitivité internationale, et ça c'est très important, parce que c'est pas parce qu'on a une société localisée à Charleroi qu'elle est forcément compétitive, donc cette vision de ce qui se passe à l'international est très importante, est évidemment un élément essentiel dans la définition de votre stratégie. Et puis, dans ces thématiques-là, on a créé des écosystèmes, et je vais vous donner un exemple de ce qu'on appelle créer des écosystèmes. Alors, vous avez votre recherche, vous avez mis en place vos outils, vous avez sélectionné des axes de développement stratégique. Il faut ensuite structurer les partenariats avec les acteurs au niveau régional. Alors, au niveau régional, c'est évidemment le monde des entreprises, c'est les différents acteurs économiques qu'on peut retrouver, c'est le monde de l'enseignement et c'est la ville, puisque vous faites partie d'un environnement. Et si vous voulez que votre université contribue au développement de cet environnement et bénéficie de cet environnement pour son développement, donc c'est vraiment dans les deux sens, vous devez vous intégrer de manière intelligente dans cet environnement, comprendre les enjeux, voir quels sont les leviers, voir ce dont vous pouvez bénéficier et voir aussi quelles sont les actions pour lesquelles vous pouvez être utile. Donc je pense que là, l'université doit aussi pouvoir s'investir dans des projets pour lesquels il n'y a pas un retour direct pour l'université. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce détail, mais on parlait du comité de développement stratégique. Moi, j'ai piloté tout le travail sur la grappe biomédicale. On est impliqué dans un certain nombre de commissions, et je donnerai un ou deux exemples de projets que nous pilotons pour la commission de développement stratégique. C'est des liens avec les entreprises, dont l'Institut des radioéléments, hein, où Pierre Marage et moi-même sommes administrateurs, et où Pierre, hier, on a eu un conseil d'administration formidable, où l'IRE nous a présenté son nouveau générateur gallium. Donc un générateur, c'est quelque chose qui vous permet de préparer des traceurs d'imagerie pour les injecter aux patients dans le cadre de traitement. Et vous devez savoir que l'IRE est allé à un congrès la semaine passée, où toutes les boîtes du monde entier sont venues leur dire ce que vous avez fait là, c'est top. Et donc l'IRE est peu connu pour cet aspect-là, mais je peux vous dire que d'ici quelques années, voire quelques mois, on va beaucoup parler de l'IRE pour ce développement-là. Et vous comprenez évidemment les liens évidents qu'il y a avec le secteur biomédical qui est au cœur de notre métier. Et donc c'est aussi comment on s'intègre avec des acteurs comme l'IRE. Tout le volet avec les hautes écoles, hein, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le cadre de la formation, il y a un certain nombre de programmes qui sont développés en collaboration avec les hautes écoles et pour les hautes écoles. Hein, c'est entre autres de la formation pour les enseignants des hautes écoles. Et n'hésitez pas à me dire si je dépasse mon temps, parce que j'ai un peu tendance à m'étendre une fois que je suis parti. Mais juste pour vous donner un exemple de ce qu'on fait avec les hautes écoles. Donc moi, j'ai fait mon mémoire il y a maintenant pas si longtemps que ça, enfin quand même. À l'époque, cloner un gène, c'était un travail d'un an. Hein? Donc dans votre génome, vous avez 30 000 gènes à peu près. Cloner un gène, c'était un travail d'un an. Maintenant, on séquence le génome complet en quelques heures. Donc on passe d'un an pour un gène à quelques heures pour en identifier, en séquencer 30 000. Vous vous rendez bien compte que je n'ai pas fait mon mémoire il y a 250 ans. Et donc vous voyez les évolutions technologiques qu'il y a eu. Bien, typiquement, ce qu'on fait au Bioparc Formation, c'est mettre en place des modules qui expliquent les évolutions technologiques et leur rapidité, et qui permettent aux enseignants des hautes écoles de venir faire un upgrade de leur formation dans un environnement scientifique comme le Bioparc, où par définition, nous sommes équipés des dernières technologies et nous les maîtrisons. Alors, Nathalie en parlait au niveau du comité de développement stratégique. C'est très important, une fois que tout ça est en place, d'avoir une stratégie de communication, et une stratégie de communication à deux niveaux. Au niveau régional, c'est un double message. Nous sommes un pôle de recherche et un pôle de développement économique. Je pense vous avoir démontré que nous étions clairement les deux. Et donc, c'est développer tout un certain nombre d'outils. Et c'est aussi au plan international, au plan international, que nous soyons un pôle de développement économique pour la région de Charleroi, ils n'en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est de savoir que nous sommes un pôle compétitif dans certains domaines. Et je vous montrerai entre autres ce qu'on a fait en thérapie cellulaire. Et donc il faut vraiment décliner les outils et bien les penser à ces deux niveaux avec des messages relativement différents. Et j'insiste sur ça parce que souvent, typiquement, l'image de Charleroi, ville sympa, les boîtes biotech qui viennent s'installer, elles n'en ont rien à foutre. Franchement, ça ne les intéresse pas du tout. Elles, ce qu'elles veulent savoir, c'est est-ce que c'est un bon environnement pour développer ma société ? Est-ce que je vais trouver du capital ? Et donc, c'est pour ça que quand on travaille à deux niveaux, il faut vraiment bien penser sa stratégie et adapter les outils en fonction. Hein. Alors, je vous parlais d'écosystème. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on a fait en thérapie cellulaire, parce que c'est une bonne illustration de l'intégration de tout ce que je viens de vous raconter. Donc, initialement, en thérapie cellulaire, l'université a une spin-off, 2006. Bonne Therapeutics, qui développe des produits pour la thérapie osseuse. Une réflexion est initiée à partir de Bonne Therapeutics, parce que donc la thérapie cellulaire, en fait, c'est vous prenez des cellules, vous les différenciez, vous les réinjectez pour traiter le cœur, l'os, le foie. Donc c'est en fait la cellule qui est le médicament, par rapport aux autres thérapies classiques, où ça peut être une molécule chimique, un peptide. Ici, c'est vraiment la cellule qui est le médicament. Cette société est en plein développement en 2006, donc se crée en 2006. Vers 2010-2011, on se dit, lorsqu'elle va arriver au développement de ses phases cliniques, on va avoir un problème parce qu'il va lui falloir une usine de production pour produire les cellules. Donc lorsqu'elle devra traiter de plein de patients, il lui faut une usine. Alors, et Nathalie le mentionnait, en collaboration avec toute la région, parce que je pense que si on a créé cette société, si elle a Charleroi, c'est parce qu'il y a eu une vraie concertation entre les différents acteurs, on crée une société qui s'appelle Mastercell, dont le job est assez simple, vous envoyez vos cellules, ils les différencient, vous les renvoient. Donc ça veut dire que Mastercell peut travailler pour toute une série de sociétés qui développent des produits de thérapie cellulaire différents. Et ça, c'est vraiment un bon exemple de coopération, la création de Mastercell, puisque c'est un projet qui est initié par le pôle de compétitivité BioIn, dans lequel on est présent. Les différentes régions se positionnent, Louvain-la-Neuve, Liège, Charleroi. C'est finalement le projet de Charleroi qui l'emporte. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment eu une bonne concertation. Et je prends toujours un exemple qui a vraiment été très important quand on a créé Mastercell. On était en train de construire notre deuxième incubateur. Et puis Mastercell nous dit, si on s'installe à Charleroi, il nous faut 6 mètres de plafond. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir YTech qui est en train de construire le deuxième incubateur. Les travaux étaient commencés. Et on dit à YTech, les amis, il faut vous arrêter. Il faut vous arrêter, il faut nous rajouter un étage de 6 mètres. La majorité des internes communales nous auraient dit, écoutez, ça ne se fait pas. Quoi. On n'arrête pas un chantier en cours, on ne rajoute pas. Qu'est-ce qu'on a fait avec YTech ? Ça a pris une semaine pour avoir la décision qu'on arrêtait le chantier, qu'on remodifiait les plans et qu'on rajoutait un étage. Et donc typiquement, s'il n'y avait pas eu à ce moment-là cette collaboration entre l'ULB, les différents acteurs, et l'intercommunal, Mastercell ne serait pas là et on n'aurait pas eu tout ce développement. Alors, donc on crée Mastercell. Mastercell se porte très bien maintenant. À une quarantaine de personnes, devrait doubler d'ici 2 ans. On met en place toute une série de structures support. Au sein de nos instituts de recherche, on développe des outils spécifiques pour la thérapie cellulaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Au niveau du bioparc formation, on met en place des modules de formation spécifiques pour les sociétés de thérapie cellulaire, puisque c'est un secteur émergent, donc quand on crée ces premières sociétés, on anticipe qu'on va avoir beaucoup de mal à trouver des ressources humaines. Et donc Arnaud prend son bâton de pèlerin, va voir les différentes sociétés, définit avec ces sociétés quelles seront les compétences dont vous aurez besoin, met en place un programme de formation, et dans certaines de ces sociétés, un tiers des employés ont été formés chez nous. Donc vous voyez un centre de formation qui est vraiment là en soutien de la stratégie de croissance du campus. Et puis on met en place des politiques de communication à l'international avec le pôle, avec la WEX, avec les parcs scientifiques, avec tout un certain nombre d'acteurs. Et tout ça nous permet d'attirer 2 sociétés dont je vous parlais, société israélienne et société des Pays-Bas, qui sont venues chez nous parce qu'aujourd'hui, évidemment, ils viennent et ils nous renforcent. On est un des plus gros hubs en thérapie cellulaire au niveau européen. Donc maintenant, on commence à compter à l'échelle européenne en termes de hub et on reçoit maintenant des sociétés japonaises, chinoises, je recevais aussi des Indiens qui se disent, tiens, on veut venir s'installer en Europe, Charleroi est sans doute un des endroits à considérer. Et de nouveau, vous voyez que tout ça est basé sur des partenariats. Et on est maintenant en train de discuter avec l'aéroport, puisque comme je disais pas plus tard que cette semaine, une présentation en Pologne, nous sommes un des rares bioparcs à avoir son aéroport juste à côté. Donc, mais rassurez-vous, les passagers pourront continuer à utiliser l'aéroport. Alors, je vous disais, nos sociétés, elles se portent plutôt pas mal. Iteos, qui est là, une des spin-offs de l'UCL qui est venue s'installer sur le campus, ils sont à 40 maintenant, ils viennent de signer un accord de 25 millions avec Pfizer. Pluriomics s'est installé, a levé 4 millions d'euros avec la participation de Sambre Invest. Donc de nouveau, hein, si vous n'avez pas des outils financiers, des boîtes comme ça ne viennent pas s'installer. Et on parle de 4 millions, c'est à la création de la société, donc vous voyez qu'on est quand même dans des capitaux relativement élevés. Bone Therapeutics est rentré en bourse cette année-ci de manière vraiment successful et a levé 32,2 millions d'euros. Et Euroscreen, ça date d'une semaine, vient de signer un accord de licensing pour 16 millions d'euros. Et on a maintenant des sociétés qui sont entre 40 et 100 personnes. Et donc, sur les 960 emplois, les sociétés en représentent plus ou moins 600, 650. Donc, vous voyez qu'à partir de 100 chercheurs qu'on a mis, on a maintenant évidemment développé notre potentiel de recherche, mais on a aussi créé pas mal d'activités industrielles. Alors le futur, c'est le développement du cluster thérapie cellulaire avec de nouveau des partenariats avec l'aéroport. C'est aussi un projet de protonthérapie qui est mené en collaboration avec différentes universités, je vais y revenir. C'est un projet important qui a été financé par les fonds FEDER, la nouvelle programmation des fonds FEDER qui s'appelle le portefeuille Wallonia Biomed, où 32,5 millions d'euros vont être investis. Et vous avez compris, pour le développement de recherche dans les filières dont je vous ai parlé, pour le développement de nos infrastructures d'incubation. Et donc là, on est en discussion avec YTech, enfin plus qu'en discussion, on avance sur la création du troisième incubateur, puisque le deuxième qu'on a inauguré en 2012 est déjà plein. Et ce sont aussi évidemment une partie de ces budgets qui iront pour la formation. Alors, je vous disais, le rôle de l'université, c'est aussi de jouer à un moment un rôle fédérateur et j'ai presque fini, dans un certain nombre de projets. Nathalie parlait d'un projet de radiopharmacie centralisée qui regrouperait l'IRE et différents hôpitaux, hein, le CHU, le GHDC. L'ULB est fortement impliqué. Et bon, là, je pense que sans Pierre Marage, qui est juste là, ce projet de centre de protonthérapie n'aurait probablement jamais vu le jour. Donc, je pense qu'on peut aussi remercier Pierre pour sa contribution au développement de ce centre qui aura un impact pour toute la Wallonie, mais qui sera quand même localisé à Charleroi. Et je vous disais, on est en train de travailler avec l'aéroport. Et donc ça, je pense que c'est un rôle structurant que l'université peut jouer en coordonnant des projets multi-acteurs. Alors c'est ma slide de conclusion. Charleroi n'a pas et n'aura jamais une université, ça c'est assez évident. Elle peut par contre utiliser les universités, et donc l'avantage de ne pas en avoir une, c'est qu'on peut en avoir plusieurs, pour son développement. Dans toute une série de projets, je parlais du Xenogramme, bon, le bioparc est un bon exemple. Je pense que le bioparc, on a bien l'intention de continuer son développement. Je dis toujours, l'ambition, c'est qu'on passe de 3 à 5 000 dans les 5 ans qui viennent. Et je pense aussi qu'on pourrait mettre en place au niveau de Charleroi des écosystèmes équivalents au bioparc. Parce que si on regarde dans l'aéronautique, on a un certain nombre d'acteurs qui sont là, qui sont présents. Je pense qu'on pourrait vraiment travailler à cette articulation-là, à une communication à l'international, à une communication régionale, et finalement avoir une stratégie tout à fait équivalente. Il y a un gros potentiel dans tout ce qui touche autour de l'image et du numérique. Et si on somme les projets, et ce qui manque en fait aujourd'hui, c'est de nouveau une certaine mise en cohérence entre tous ces projets, et une certaine articulation entre tous ces projets. Et on a bien entendu un projet qui a été financé, qui est un centre d'excellence en efficacité énergétique, dans lequel sont impliqués nos collègues de l'Université de Mons. Donc voilà, je pense que le bioparc est un bel exemple, il devrait le rester. Et d'ici quelques années, si on a tous bien travaillé ensemble, on pourrait avoir quelques aéroparcs, numériparcs et centres excellologie parcs. On trouvera des noms un peu plus sexy, rassurez-vous. Et j'en resterai là, merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. On a encore du temps pour des questions, des remarques, des débats. Qui demande la parole? La personne qui... Oui, monsieur.
Michel Poulain. Je voudrais vous demander quel est l'impact au niveau de la population de Charleroi, je parle des habitants de Charleroi, de l'implantation de ces implantations-là, et plus concrètement, quelle est la proportion des gens qui y travaillent, qui sont nés à Charleroi ou qui viennent y résider à cause de ça. Je crois que c'est important pour savoir si c'est quelque chose qui est excentré par rapport au développement de la ville ou si c'est... et comment ça évolue en fait. C'est important.
Et le micro.
Si vous pouvez juste me remettre mes slides, parce que j'en ai une avec ces chiffres-là. Bon, premier élément, c'est que ce sont des statistiques qui évoluent dans le bon sens. Vous comprenez ce que j'appelle le bon sens d'année en année. Et donc, si on les voit, il y a deux questions. La première question, c'est celle que vous posez, qui est, vous pouvez mettre la toute dernière, si vous voulez bien. qui est quel est l'impact sur Charleroi. Et donc aujourd'hui, on va voir les chiffres, mais je pense que 78% des gens qui travaillent au bioparc habitent en région wallonne. Quand on a commencé sur le campus, la majorité était bruxellois. C'est quand même finalement, c'est une greffe, hein. C'est une greffe bruxelloise au niveau de Charleroi. Alors, si on regarde dans cette proportion, dans ces 78%, aujourd'hui, donc 20% finalement de l'ensemble des gens qui travaillent sur le bioparc sont originaires ou habitent dans le Grand Charleroi. Alors, où ils sont nés, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas, on n'a jamais poussé les statistiques jusque-là. Et ça fait d'ailleurs partie des réflexions. C'est qu'à un moment, j'aimerais bien qu'on fasse une vraie étude là-dessus. Mais bon, vous savez aussi bien que moi que ce sont des études qui demandent un certain temps, un certain investissement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est juste demander aux sociétés où habitent les gens, code postal. Et c'est encore là, c'est deux slides suivantes. Encore une, voilà. Donc localisation, je me disais, 78% en Wallonie, 15% en Bruxelles, 46% dans le Hainaut. Et 20% dans le Grand Charleroi. Alors, de nouveau, ça dépend comment on définit le Grand Charleroi. Ça, c'est aussi une discussion qu'on peut avoir à l'occasion en fonction des codes postales, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas. Et clairement, cette proportion-là augmente d'année en année. Au début, on faisait ça de manière moins fine, maintenant on le fait, mais je dirais qu'on gagne 5 à 10% tous les ans. Et c'est aussi lié au deuxième graphe, qui est l'évolution des diplômes sur le bioparc. Puisque finalement, les questions qu'on a, c'est « Ok, mais est-ce que ce ne sont pas que des Bruxellois surdiplômés ?» On parle de biotech, on parle de thérapie cellulaire. Et vous voyez l'évolution des diplômes. Aujourd'hui, 24% sont des gens qui ont un diplôme de type docteur, 33% de type master, 27% de type bachelier, 16% un diplôme du secondaire. Si je vous avais montré cette slide il y a 10 ans, ça aurait été 88% de type docteur. Et donc, avec la croissance des entreprises, on voit c'est les cercles master, secondaire et bachelier qui augmentent. Et on a la chance dans la région d'avoir de très bonnes hautes écoles dans le domaine de la santé. Donc on a de plus en plus, et les biotechnologies, de plus en plus de jeunes de la région qui viennent faire leur stage chez nous et qui après travaillent chez nous, puisqu'évidemment avec la croissance qu'on connaît au niveau de nos entreprises, on est un assez gros pôle, on engage des gens quasi toutes les semaines maintenant. Et donc c'est vraiment une statistique qui est en train d'augmenter. Et je dirais que même dans les gens plus diplômés, il y en a de plus en plus qui commencent à s'installer sur Charleroi. Et donc là, évidemment, une de nos obsessions, et on en discute souvent avec l'intercommunal, avec la ville, c'est comment est-ce qu'on peut coupler la dynamique de développement du bioparc avec la dynamique de développement du centre-ville. Et donc, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand j'ai des sociétés étrangères qui viennent s'installer, ben Charleroi n'est pas encore attractif. Donc, je ne peux pas les convaincre de venir s'installer à Charleroi. Si je les emmène à Namur ou à Louvain-la-Neuve, ils vont me dire Namur et Louvain-la-Neuve, c'est sympa. Et donc, le pari qu'on fait, et c'est pour ça qu'on est évidemment très intéressé et très supportif par rapport à tout ce qui se développe, c'est que dans 4 ou 5 ans, et maintenant, on peut déjà les amener en disant tiens, regardez, là, comme c'est rénové, hein, je pense OK, ou tiens, là, voilà les projets, voilà. Je pense que dans 4 ou 5 ans, on sera tout à fait attractif pour que les gens qui viennent s'installer, que Charleroi et le centre-ville de Charleroi soient une vraie option. Et là, je pense que si on se revoit dans 5 ans, nos statistiques auront encore évolué et j'espère qu'on sera peut-être à 50% des gens du bioparc qui habitent, vivent et travaillent à Charleroi.
Merci. Est-ce que je peux enchaîner sur ce débat-là parce que, naturellement, c'est vraiment un bon exemple de levier de transition urbaine. Mais c'est une nouvelle population qui a des exigences sur la ville. Et donc, le grand enjeu, c'est quand même aussi de ne pas avoir un processus de gentrification traditionnel où les prix montent, où les exigences montent et où donc la population originaire, disons, qui ne trouve pas du boulot dans ces nouveaux développements, est repoussée. C'est quand même aussi un enjeu.
Alors, donc, c'est un enjeu. Pourquoi est-ce qu'on a mis, entre autres, les programmes de formation continue pour les demandeurs d'emploi? C'est typiquement parce qu'en discutant un jour avec le responsable du forum formation, après, je pense, Rudy, que c'était après le congrès qu'on avait fait ensemble, hein, il y a Georges Van Oort qui parlait, je lui disais c'est quand même dommage que le bioparc ne puisse pas plus contribuer au développement de Charleroi et à l'ensemble de sa population. Et donc là, on s'est dit, OK, mais finalement, nous, on est quand même dans un secteur où l'emploi est en tension, hein, c'est ce qu'on dit maintenant, l'emploi. Avant, on parlait de pénurie, maintenant, on parle d'emploi en tension, et on s'est dit, mettons en place des programmes pour les demandeurs d'emploi. Parce que finalement, on a sur Charleroi, évidemment, un taux de demandeurs d'emploi qui est relativement important, et à côté de ça, nous, on a un secteur où on n'a pas assez de gens. Et donc, on a mis en place ces programmes avec le Forum, et tout le challenge, c'est ce qu'on a déjà dit, et Arnaud et moi, au Forum, doublez-nous les budgets de formation, on vous met 2 fois plus de gens à l'emploi. Et donc, on pense que dans la population de Charleroi, il y a un certain nombre de gens qu'on pourrait reformer et remettre dans le secteur des biotech, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'emplois, c'est un des plus gros employeurs de la région wallonne, la biotech. Donc on pense qu'une vraie stratégie encore plus poussée pour ces populations-là pourrait être intéressante. Alors on réfléchit aussi par rapport, donc les 16% de gens qui ont un diplôme de type secondaire, il y a 2 ans c'était 10%, et à mon avis il y a 10 ans c'était 1 voire 0%, hein, donc c'était une ou deux personnes. Donc ça c'est aussi quelque chose qui évolue. Donc je pense que, et ça c'est vraiment des stratégies qu'on doit coupler, et on peut travailler avec l'université ouverte sur ce genre de projet, on doit travailler avec la ville, ça c'est nouveau, ça doit faire partie de stratégies intégrées. Je pense que c'est vraiment l'esprit de ces Charleroi Académie, c'est que ce n'est pas l'université seule, et c'est pour ça que j'insistais vraiment sur ce schéma d'intégration dans la réalité de la ville. Donc le développement d'un bioparc à Charleroi n'aura pas la même stratégie que le développement d'un bioparc à Louvain-la-Neuve, où la population est différente. Et ça, c'est vraiment, ça ne peut vraiment se faire qu'en concertation avec les différents acteurs. Et alors je pense qu'on peut vraiment contribuer à ce qu'un environnement très spécifique comme celui-là contribue à un développement plus général.
Questions ? Interventions ? Ben, s'il n'y a personne, on remercie Dominique Demonte pour cette très belle exposé. Dominique, tu as un petit cadeau.